Ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples, proclame l'Éternel par l'intermédiaire du prophète Ésaïe. Et nous voulons, ce matin et ici, nous en faire l'écho en disant à chacun et à chacune, vous êtes ici chez vous. Vous n'avez rien à prouver, rien à avouer, rien à justifier. Vous pouvez prendre place et respirer au large de l'amour qui vous accueille. À chacun, à chacune et à tous, la grâce et la paix sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus le Christ, notre Sauveur et notre Frère. Et à cet accueil, nous répondons par la louange. Éternel Dieu, nous, les perdus et les isolés, les brisés et les blessés par la vie, les fatigués et les souffrants, nous te remercions pour le pain et pour l'eau vive de ta parole. Nous qui avons tout vu, nous qui doutons, qui espérons et nous émerveillons, parfois troublés, parfois sereins, nous te louons pour la compagnie des amis, des frères et sœurs que nous recevons dans ta bonté. Nous, les fiers et les prétentieux, sûrs de nous-mêmes, supérieurs, jamais inférieurs, nous te remercions pour la douceur de ta présence. Nous, les épanouis et les affairés, les remuants et les stimulants, les bouts en train, nous te remercions pour la joie profonde que tu verses en nous. Nous, dans le dernier des coins ou au premier plan, avec les peurs et les obsessions, avec les pleurs et les dépressions, les excès et les succès, nous te rendons grâce de nous recueillir et de nous vivifier. Amen. Et je vous invite à poursuivre la louange par le chant du psaume 138, « Que tout mon cœur soit dans mon chant », nous le chantons en entier.
Thank you.
Prenez place. Nous nous rassemblons, nous nous recueillons dans la prière. À toi, mon Dieu, mon cœur monte. Ton amour est mon appui. Toi, le Dieu des cœurs brisés, des cœurs hésitants, des cœurs battants. Dieu des chemins égarés, escarpés, des routes à tracer. Dieu des bras ouverts, des mouchoirs serrés, des sourires offerts. Ton amour est mon appui. Toi, le Dieu des jours d'abandon, de questions, d'amitié. Dieu des douleurs éprouvées et des tendresses partagées. Dieu des patiences, des persévérances, des fidélités. Ton amour est mon appui. Toi qui appelles, qui m'appelle, qui nous appelle et nous restaure dans ta confiance, dans ton espérance et dans ton amour. À toi, mon Dieu, mon cœur monte, ton amour est mon appui. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter au cantique numéro 222. Toi, Saint-Esprit, lumière qui vient. Prenez place. Avant d'ouvrir la Bible et de lire dans les Écritures, nous prions. Éternel notre Dieu, dans la prière, nous nous tournons vers toi et nous nous disposons ainsi à l'écoute, afin que l'esprit de lumière et de vérité éclaire pour nous les mots de la Bible et que nous y entendions ta parole de vie. Conduis-nous dans la vie et dans la vérité. Amen. Nous lirons ce matin le texte d'évangile qui est proposé à la méditation des églises pour ce dimanche. C'est dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 13, les versets 24 à 43. Et c'est un grand discours de Jésus qu'il adresse à une foule rassemblée près de la mer et puis à ses disciples qui sont là aussi, un grand discours constitué de plusieurs paraboles. Donc en voici quelques-unes. Jésus leur proposa cette autre parabole. Il en va du règne des cieux comme d'un homme qui avait semé de la bonne semence dans son champ. Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de la mauvaise herbe au milieu du blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et produit du fruit, la mauvaise herbe parut aussi. Les serviteurs du maître de maison vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y ait de la mauvaise herbe ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui dirent « Veux-tu que nous allions l'arracher ?»« Non, dit-il, de peur qu'en arrachant la mauvaise herbe, vous ne déraciniez le blé en même temps. » Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en gerbe pour la brûler, puis recueillez le blé dans ma grange. Il leur proposa cette autre parabole. Voici à quoi le règne des cieux est semblable. Une graine de moutarde qu'un homme a prise et semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les plantes potagères et elle devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Et il leur dit cette autre parabole, « Voici à quoi le royaume des cieux est semblable. Du levain qu'une femme a pris et introduit dans 3 séas de farine jusqu'à ce que tout est levé. » Tout cela, Jésus le dit en parabole aux foules. Il ne leur disait rien sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par l'entremise du prophète. Je prendrai la parole pour dire des paraboles, je proclamerai des choses cachées depuis la fondation du monde. Alors Jésus laissa les foules et entra dans la maison. Ses disciples vinrent lui dire « Explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. » Il leur répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. La mauvaise herbe, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. » Les moissonneurs, ce sont les anges. Ainsi, tout comme on arrache la mauvaise herbe pour la jeter au feu, de même en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal, et ils les jetteront dans la fournaise ardente. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes brilleront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles entende. Dans le langage populaire, il est resté de la parabole appelée dans les Bibles la parabole du bon grain et de l'ivraie, la plus grande des trois lues ce matin, il est resté une expression qui est justement « séparer le bon grain de l'ivraie » et vous l'avez certainement entendu. Elle signifie déjà distinguer entre le bien et le mal, voire entre les bons et les méchants, distinction qui est le fruit d'un discernement. Mais pas seulement distinguer, il s'agit aussi de séparer, mettre le bon grain d'un côté et l'ivraie de l'autre. Agir donc, agir efficacement. Et si possible, même si ce n'est pas explicite, se débarrasser de l'ivraie, du mal, du mauvais, peut-être des méchants. Évidemment aussi, tout dépend du point de vue adopté, c'est-à-dire du critère de discernement entre bien et mal, entre bon et méchant. Mais bon, séparer le bon grain de l'ivraie, c'est pourtant exactement ce que les serviteurs de l'homme qui avait semé le bon grain dans son champ ne doivent pas faire. L'expression populaire, bien qu'issue de la parabole, la contredit complètement. C'est peut-être là le signe du désir bien humain de faire quelque chose face au mal, au mauvais, au méchant. C'est impossible de rester les bras croisés, impossible d'attendre passivement la fin des temps, le jugement final, si tant est qu'on y croit, car le Nouveau Testament n'est pas univoque sur cette question. Mais enfin, dans le monde, aujourd'hui, maintenant, il faut faire quelque chose, il faut agir, s'engager et prendre part à la lutte, à la résistance contre le mal. Il faudrait être particulièrement dépourvu de conscience pour laisser le mal qu'on peut empêcher. Et si justement nous avons une conscience, c'est bien pour pouvoir discerner autant que possible le bien du mal. Mais alors pourquoi la parabole va-t-elle à rebours de ce désir légitime d'agir pour arracher le mal qui a pris place, qui pousse dans le champ du monde? Cette présence du mal dans le monde, c'est ce que nous voyons, c'est bien ce que nous éprouvons chaque jour, comme nous comprenons aussi comme notre vocation de ne pas laisser faire, de protester, de résister, de s'investir d'une manière ou d'une autre contre le mal et ses effets, pour le bien et ses fruits. Et c'est ce que font peut-être encore des paysans lorsque l'ivraie commençait à s'installer dans un champ de blé. Ils l'arrachaient afin qu'elle ne gâche pas toute la récolte et ne mette pas en danger ceux qui mangeraient le pain produit avec la farine. Car l'ivraie est une plante dangereuse. Elle est souvent infestée par un champignon qui produit une substance provoquant, un peu comme l'ergot de seigle, des vertiges, des délires, des hallucinations. Une sorte d'ivresse que traduit le nom latin de l'ivraie, ébriaca. Le nom grec est lui aussi fort intéressant, parce qu'en grec, l'ivraie, ça se dit zizanie. Et nous voyons tout de suite très bien de quoi il s'agit. Et comment l'expérience agricole de l'invasion d'un champ de blé par la zizanie, capable de gâcher une récolte entière, a pu devenir une image de ce qui gâche tant de relations humaines. Cette mauvaise graine est une graine de discorde, de dispute, de division, d'hostilité. C'est que, chers amis, les paraboles prennent appui sur des expériences humaines universelles, que chacun peut comprendre, que chacun peut reconnaître dans sa propre expérience de vie. Comme les serviteurs de la parabole, nous constatons la présence et l'œuvre du mal dans le monde, le mal coexistant avec le bien. Nous voulons agir contre le mal ou les méchants afin que le bien se déploie au maximum. Nous en appelons à Dieu afin qu'il nous aide dans cette œuvre parce que nous craignons l'échec. Et nous savons aussi qu'en nous se mêlent bonnes et mauvaises graines et que nos bonnes intentions peuvent dériver en totale zizanie. Nous aimerions tout connaître sur le bien et le mal, et puis être plus fort que le mal, toujours. Les paraboles parlent le langage de notre existence, avec le découragement, la joie, la crainte, l'espérance. Elles s'adressent à l'ensemble de notre être. Et chacun peut entendre la parabole dans sa propre existence, puisqu'elle nous parle de nous. Et nous avons l'intelligence nécessaire pour le reconnaître. Comme les foules et les disciples l'avaient aussi, c'est pourquoi Jésus les raconte. C'est pourquoi nous les lisons encore, ces paraboles. Ces histoires qui rejoignent chacune de nos histoires personnelles, mais cela sans jamais nous forcer à quoi que ce soit, toujours en respectant notre liberté. Lorsque Jésus parle en parabole, ce n'est pas pour distraire son auditoire, ce n'est pas pour ranimer l'attention de ceux qui l'écoutent, ce n'est pas un truc de communication. Les paraboles représentent un enseignement. Et dans le chapitre 13 de l'évangile de Matthieu, Jésus enseigne la foule et les disciples au sujet du règne des cieux. Dans ce chapitre, je vous invite à aller le lire d'un bout à l'autre, il n'y a pas moins de 7 paraboles qui parlent du règne des cieux, comme d'un semeur qui sort pour semer, comme d'un homme qui sème de bonnes graines, d'une graine de moutarde, comme du levain dans la pâte, comme d'un trésor caché dans un champ, comme d'un marchand qui cherche des perles fines, comme d'un filet jeté à la mer. Une cascade de paraboles pour parler du règne qui ne se définit pas, mais qui se donne à ressentir à travers ces paraboles quand on peut y lire nos propres existences, nos propres expériences, et quand on entend à quoi elle nous ouvre. Mais comment, à quoi ressentir ce règne des cieux, puisque le maître de maison ne permet pas aux serviteurs d'arracher l'ivraie qui se mêle aux épis, puisque les serviteurs n'ont rien à faire sinon attendre l'heure de la moisson, et alors d'autres qu'eux viendront séparer le bon grain de l'ivraie. Nous pouvons bien nous tourner vers l'explication de la parabole que les disciples réclament à Jésus un peu plus tard et que Jésus leur donne d'ailleurs, mais franchement, nous ne sommes pas plus avancés. Car il faut bien le dire, cette explication n'éclaire pas grand-chose. Il s'agit d'une allégorie minimale, une série de correspondances, le champ c'est le monde, les moissonneurs ce sont les anges, etc. Mais il manque quand même la correspondance des serviteurs qui disparaissent de l'explication. Alors des serviteurs désœuvrés à des serviteurs disparus, nous voici quand même en bien inconfortable posture et toujours aussi ignorants de ce que la parabole peut bien affirmer au sujet du règne des cieux et à notre sujet en ce qui concerne le règne des cieux. Si le règne des cieux doit attendre la fin du monde et la fin des temps, eh bien, soit Jésus pensait que celle-ci était imminente, ce en quoi il s'est bien trompé, comme Albert Schweitzer l'a fait remarquer, je crois, le premier. Soit il est urgent de ne rien faire en attendant cette fin du monde, puisque l'issue ne laisse guère de doute, même au travers de ces images d'anges moissonneurs et de fournaises de feu, images qui ont fait froncer les sourcils de quelques-uns d'entre vous, j'ai vu. Le langage apocalyptique n'est plus le nôtre. Mais enfin, ce que dit la parabole, c'est que la moisson sera faite, qu'elle sera bonne, que le mal sera éliminé et que rien de cela ne dépend de nous autres humains. Mais ce n'est pas de n'importe quel faire dont il est question, celui qu'il ne faut pas faire. Ce n'est même pas de tout ce qu'il est possible de faire devant la présence du mal, et heureusement, il ne s'agit pas de laisser faire le mal. Ce n'est pas de toute action contre le mal dont il est question. Il est indispensable que nous agissions. Mais une chose, c'est un fer particulier qui est pointé par la parabole, un fer posé comme un interdit. Non, n'arrachez pas l'ivraie. Ne triez pas le bon grain de l'ivraie. Et cela, dès maintenant. Alors nous pouvons comprendre que même si la parabole et son explication focalisent sur la fin du monde, la fin des temps, Jésus enseigne ses disciples sur le maintenant de leur existence. Et que certainement, le règne, non, n'est pas pour plus tard. Il n'est pas pour plus tard, il n'est pas non plus dans le passé, dans un paradis qui serait perdu. Il se manifeste dans le présent. Il peut survenir dans le présent, dans une dimension autre que les dimensions qui caractérisent le monde, notre monde. Nous envisageons plus souvent la proximité du règne annoncé par Jésus, le règne qui advient par Jésus, en lui, qui est manifesté, qui est révélé par ses actes et par ses paroles, sur un mode positif, à travers l'amour, le pardon, l'hospitalité, la solidarité et la confiance. La parabole du bon grain et de l'ivraie, qui ne dessine pas tout du règne, parle, elle, de quelque chose à éviter. Parce que certainement, ce qui est à éviter se produit de mille manières et en mille circonstances dans notre monde. Et c'est trier. Trier les uns et les autres, les bons et les mauvais. Trier, trancher, classer, ranger, étiqueter, évaluer, départager, juger et condamner. Un désir spontané, quasiment naturel, mais qui est aussi enseigné aux humains que nous sommes et dès l'enfance, toute une façon de regarder, de penser, d'agir, et qui trouve tant de défenseurs, y compris avec des raisons qui semblent bonnes, valables, légitimes quand il s'agit d'agir pour le bien, et y compris parmi les religieux au temps du 1er que du 21e siècle. Mais nous voyons bien aussi comment évaluer, trier, juger, condamner est une attitude répandue et même plus que cela, elle imprègne en profondeur les structures des sociétés. En fonction de différents critères d'origine, de parcours, de famille, de compétences, d'orientation sexuelle, de manière de croire, de couleur de peau. Nous savons bien que ce regard particulier porté sur autrui, cette manière de faire, sont forcément le fruit d'une position en surplomb par rapport à l'autre, celui que l'on juge, et une position qui ne se reconnaît pas toujours comme telle, persuadée qu'elle est d'être seulement du côté du bien, du bon. Mais alors ce qui se passe, c'est que toutes les vies ne comptent pas, autant les unes que les autres. Jésus ne se contente pas de dire la parabole. Il indique en quoi le tri des uns et des autres, en quoi le jugement des uns par les autres s'oppose à l'advenue du règne. De même que la parabole parle de la fin des temps de manière oblique, Jésus évoque, lui, la fondation du monde, l'autre bout, à l'aide d'une citation du psaume 78. J'ouvrirai la bouche pour dire des paraboles. Je proclamerai des choses cachées depuis la fondation du monde. Mais on peut quand même se demander, chers amis, si les choses cachées depuis la fondation du monde le sont véritablement. Parce qu'il y a quand même une chose de la fondation du monde qui n'est pas du tout cachée, qui est proclamée, écrite même depuis fort longtemps, déjà écrite dans les premières pages du livre de la Genèse, fondation du monde, non pas contre la science évidemment, mais pour le sens. Et un sens qui n'est pas caché comme un secret que personne ne doit découvrir, sauf peut-être quelques appelés bien sélectionnés, mais caché parce que chacun doit le découvrir pour lui-même. Nous pouvons tous lire le livre de la Genèse, au chapitre 3, lorsque le serpent dit à la femme, qui discute quand même l'invitation du serpent à manger le fruit défendu, le serpent lui dit, « Vous serez comme Dieu. » Cela s'appelle une tentation. Plus précisément, c'est la tentation. la tentation de se prendre pour Dieu, celle de vouloir abandonner sa condition de créature, abandonner la condition humaine, ou la dépasser pour devenir plus au-dessus, quitter la terre pour aller toucher les cieux, domaine du divin. C'est la tentation, cette tentation qui est aussi présentée à Jésus au chapitre 4 de l'évangile de Matthieu, lorsque le diable lui propose de changer les pierres en pain, de se jeter du haut du temple, de régner sur tous les royaumes du monde. Bien sûr, il y a un prix, mais le diable du récit le fait passer pour tellement dérisoire, à peine une note en bas de page, face à la perspective d'être au-dessus de tous. Se prendre pour Dieu. C'est aussi ce que les religieux proposent à Jésus dans l'évangile de Jean, lui amenant une femme adultère, d'être maître de la vie ou de la mort de cette femme. Se prendre pour Dieu. Quand Jésus enseigne à ses disciples comment prier, la prière comporte cette demande. Dans l'évangile selon Matthieu, ne nous conduis pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal ou du malin. Alors on peut entendre la tentation comme un générique qui engloberait toutes sortes de tentations, toutes celles que l'on pourrait rencontrer. Mais peut-être que la tentation, c'est justement seulement celle-là, celle de se prendre pour Dieu, parce que c'est celle-là qui fait obstacle à l'advenue du règne. Jésus n'offre pas un savoir sur le règne des cieux. Il invite à renoncer à se prendre pour Dieu. Et ce renoncement est à reprendre encore et encore de nombreuses fois tout au fil de nos vies. Jésus le Christ ne fait pas de nous des sachants, des initiés, des possesseurs de secrets ou de pouvoirs, ni même des maîtres qui maîtrisent. Il nous invite à assumer d'être seulement humains. Humain avec ce que l'humanité comporte de vulnérabilité, oui. Humain parfois déstabilisé, que leur désir de maîtrise, de savoir, soit ainsi battu en brèche, qu'ils soient invités à l'abandonner, que leur certitude n'en soit pas. Mais des humains capables d'écouter, c'est-à-dire capables d'une autre manière de se comprendre, de penser et d'agir. Et de ne pas juger. Le règne des cieux est comme un homme qui laisse tout pousser et qui a des serviteurs, qui n'arrache rien ni personne. Pensons-y. Voici le moment de confesser notre foi. Je crois en Dieu qui a créé l'humanité, homme et femme, à son image. Il nous confie le soin d'achever la création d'un monde fraternel, au service les uns des autres. Je crois en Dieu le tout proche, plus que l'humain ne l'est de lui-même et que le ciel ne l'est de la terre. Malgré le mal et la souffrance, je crois que Dieu a fait le monde pour le bonheur et pour la vie. Je crois en Dieu qui croit en l'humain. Je crois en Jésus-Christ, face divine de l'humain et face humaine de Dieu. Il est l'humain véritable comme nul ne peut l'être par lui-même. Il a été attentif aux faibles, aux exclus et aux méprisés. Il vient pour libérer l'humain de ses idoles et nous donne sa paix et sa lumière. Pour notre bonheur, il nous a demandé de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Je crois en l'Esprit de Dieu qui travaille en tout humain, au souffle divin qui nous engage dans l'amour et le service du prochain. Je crois que nous sommes capables de faire une terre meilleure. Je crois que la vérité et l'amour sans condition auront le dernier mot. La vie, même vaincue provisoirement, demeure plus forte que la mort. Amen. Et nous pouvons chanter au cantique 257. Dieu des louanges soit béni. Nous le chantons en entier. Asseyez-vous. Quelques annonces maintenant, en commençant par la triste nouvelle que nous avons apprise cette semaine du décès du professeur Bernard Cotteret, que nous avions entendu ici le 8 mars, lors du dialogue à trois voix avec Denis Guénoun et Marie Balmary. Bernard Cotteret, qui avait écrit tant d'ouvrages si érudits et si accessibles aussi sur l'histoire, spécialiste de l'Angleterre, des Tudors, de la Réforme. Il avait fait beaucoup de publications et il est décédé brutalement. Le service funèbre aura lieu mardi à 14h30 au temple de l'Oratoire du Louvre. Il n'y aura donc pas de temps de partage biblique et théologique mardi après-midi. Je me rendrai à l'oratoire et donc la réunion prévue ici n'aura pas lieu. Mais il y aura mercredi de 19h30 à 20h30 la pause spirituelle, donc une heure pour se poser, pour se reposer, pour faire un peu silence, pour descendre en soi grâce à la musique, grâce à un texte biblique et puis avec des prières et des mots pour prier. Et puis jeudi à 20h, ce sera l'autre temps de partage biblique et théologique. Et après le Cantique des Cantiques et après Coëlette, nous nous intéresserons aux Épîtres de Jean. Jeudi de 20h à 22h. Dimanche 26, il y aura bien sûr le culte à 10h30. Ce sera le dernier culte avant la fermeture estivale jusqu'en septembre. Merci à Nicole d'avoir accompagné ce culte. Je vous rappelle qu'elle ne souhaite pas d'applaudissements après le jeu d'orgue de la fin du culte. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? Alors voici le moment d'un geste, d'un acte, d'un faire important pour l'Église, afin qu'elle vive et soit Église pour le monde et dans le monde. C'est le moment de l'offrande. J'avais oublié une annonce. Sous mon nez, les recueils des cultes conférences 2020 sur le thème « Je ne sais pas », les recueils des 4 interventions sont disponibles. Il y en a encore quelques-uns pour contre la somme de 10 euros. Mais maintenant, nous nous rassemblons dans la prière. La face de la terre est le champ où tu sèmes. Et nous voyons, ô notre Père, le grain levé. Quand nous voyons aussi l'ivraie pousser avec le blé. Quand bien et mal se mêlent dans nos vies. Quand s'obscurcit ta parole. Quand elle est trahie, défigurée ou conservée jalousement. Quand vient à s'affaiblir l'espoir au cœur de l'humain. quand le doute nous prend au carrefour des chemins. Ô notre Père, envoie ton esprit de lumière et de vérité. La face de la terre est le champ où tu sèmes. Ô Père, sur tous les humains que tu aimes, sur ceux qui te cherchent, sur ceux qui pensent t'avoir trouvé, sur ceux qui sont tentés de se prendre pour toi, sur tous ceux qui prononcent ton nom et sur tous ceux qui ne l'ont jamais entendu. Ô notre Père, envoie ton esprit de discernement et de paix. La face de la terre est le champ où tu sèmes, et nous voyons, ô notre Père, le grain levé. Sur tous ceux qui portent témoignage à l'Évangile, sur tous ceux qui œuvrent pour le règne des cieux, même s'ils sont cachés au cœur du monde et sans efficacité apparente. Sur tous ceux qu'on écoute, qui entraînent les autres. Sur les ouvriers de la première heure, et sur ceux qui se mettent au travail au dernier moment. Ô notre Père, envoie ton esprit de vie et de confiance. Et parce que tu gardes dans ta mémoire d'amour et d'éternité ceux qui sont passés de l'autre côté de la vie, nous déposons dans notre prière nos souvenirs de notre ami Bernard Cotteret, notre reconnaissance pour l'homme qu'il a été parmi nous. Et nous confions son épouse, sa famille, à ta bonté et à ta fidélité. Et nous glissons notre prière dans celle que Jésus a enseignée à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter au cantique 244, « Qu'aujourd'hui toute la terre s'égaie au nom du Seigneur ». Un dernier verset pour partir comme exhortation. Toujours dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7, c'est le verset 12. Tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, vous aussi, faites de même pour eux. C'est là la loi et les prophètes. De là où nous sommes, jusque là où nous irons, le Christ nous accompagne. De ce que nous sommes à ce que nous deviendrons par l'Esprit, le Christ nous éclaire. Des généralités que nous disons, au signe de la grâce que nous posons, le Christ nous encourage. Et ainsi, Dieu nous bénit, aujourd'hui et à jamais. Amen.